Radio Campus Tour, 99.5 FM.
On vient chez vous, c'est une rencontre pendant une heure avec celles et ceux qui font bouger Tours et la métropole tourangelle pour parler ensemble de leurs enjeux, leurs défis et leurs interrogations. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 99.5. Aujourd'hui, nous sommes au syndicat des mobilités de Touraine, à Tours, pour parler du grand sujet dont tout le monde parle chez nous, la ligne 2 du tram. Où en est-on de la mise en œuvre? Quel maillage avec le réseau global de transport de la métropole? Quelles conséquences pour les acteurs locaux sur le tracé? Et on va parler de tout ça avec nos invités, que je vous présente maintenant dans l'ordre alphabétique. Valérie Dubreuil, directrice du projet ligne de tram groupement Transamo 7, elle nous expliquera ce que ça veut dire tout ça. Soazic Le Guen, directrice du syndicat des mobilités de Touraine. Olivier Pichon, qui est vice-président de l'université de Tours en charge de la transition écologique et sociétale. Et Philippe Roussy, président de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie de Touraine. Bonjour mesdames, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci à Transamo, syndicat de mobilité de Touraine, de nous accueillir dans leurs locaux. Alors, on a bien compris, donc, le thème de notre rencontre, c'est l'avancement de cette fameuse nouvelle ligne de tram. Je dis fameuse parce que, bon, c'est quand même le sujet dont tout le monde parle à Tours en ce moment, en bien, en mal, en tout cas, on en parle. Mais avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de comprendre qui vous êtes, quels organismes vous représentez, et comme on dit dans le jargon, d'où vous parlez. Qui veut commencer ? Les présentations.
Bon, je vais commencer. Alors, donc, je suis donc Olivier Pichon, je suis vice-président en charge de la transition écologique et sociétale donc, à l'Université de Tours. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour discuter, effectivement, comme vous le disiez, de cette fameuse ligne 2 de tram que l'on attend avec impatience.
Moi, je suis Soazic Le Guen, donc je suis la directrice du syndicat des mobilités de Touraine. Donc nous, on est le maître d'ouvrage de cette fameuse ligne 2 de tram, même le projet ligne 2, puisque c'est un tram et un bus à haut niveau de service. Donc on est l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la métropole, et donc en charge de ce fameux projet.
Merci.
Donc bonjour, donc Valérie Dubreuil, donc directrice du projet ligne de tram. Donc moi je travaille pour l'entreprise Transamo. Je fais partie du groupement Transamo La 7 qui accompagne le syndicat des mobilités de Touraine depuis 2020 en tant que mandataire de maîtrise d'ouvrage délégué. Donc pour simplifier, le syndicat des mobilités de Touraine a choisi de se faire accompagner par un mandataire de maîtrise d'ouvrage pour mettre en œuvre le projet ligne de tram qui comprend donc la ligne de tramway et la ligne de bus à haut niveau de service. Et donc pour ce faire, le groupement Transamo La 7 a mis à disposition des collaborateurs de chacune des entreprises avec des expertises spécifiques qui forment une équipe projet qui accompagne au quotidien le syndicat des mobilités de Touraine.
Alors, écoutez, gardez le micro, là, j'attaque... Ah, vous n'êtes pas présenté, monsieur le président.
Non, mais c'est pas grave.
On a la chance d'avoir le président de la CCI, et je ne lui demande même pas de prendre la parole. Pardon.
Donc, Philippe Roussy, je suis le président. Je suis dirigeant d'entreprise, avant tout, puisque pour être élu dans une chambre de commerce et d'industrie, il faut être dirigeant d'entreprise, et donc en activité. Et la chambre de commerce et d'industrie, c'est une chambre dite consulaire qui accompagne les entreprises dans leur développement. Ça va de la création de l'entreprise au développement de l'entreprise, on va dire à accompagner sur les transitions. On parlait de transition de développement énergétique, environnemental et autres, mais il y a aussi la transition vers le digital, le numérique. Et puis aussi les sessions. On a fait il y a quelque temps un salon qui s'appelle le salon transfert sur la transmission d'entreprise. En duplex avec les Hauts-de-France, avec la CCI des Hauts-de-France et avec la CCI Paris-Île-de-France. Voilà.
Merci Philippe Roussy. Alors, je reviens vers vous, Valérie Dubreuil. Attendez, j'y vais, c'est mon métier. On parle d'une mise en service retardée, ça veut dire quoi ça ? C'est ce qu'on lit un peu partout. On nous dit, c'est plus 2028.
Si, on est toujours sur une mise en service à l'horizon 2028. Voilà, donc il y a eu effectivement un petit décalage par rapport aux prévisions initiales qui datent de quand même de plusieurs années, hein, puisque effectivement on était plutôt parti sur une mise en service à la fin du premier trimestre 2028. Voilà, et pour diverses raisons, hein, qui sont liées notamment à des problématiques de planning, d'obtention d'autorisation administrative, etc. Aujourd'hui, l'horizon de mise en service est plutôt fin 2028.
Fin 2028. En tout cas, c'est maintenu.
Ah oui, tout à fait. Pourquoi ce ne serait pas maintenu?
Parce que c'est les gens parlent, les gens disent oui, il y a du retard, que se passe-t-il, etc.
Non, non, le projet est maintenu. Il y a eu la phase des études et des procédures. Hein, donc ça, c'était depuis 2020 jusqu'à 2025. En 2025, le préfet a pris l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet. Le projet, donc ça, c'était le 13 juin 2025, qui permet de pouvoir enclencher de façon opérationnelle ce beau projet ligne de tram. Donc depuis cette date-là, on a d'ailleurs des premiers travaux qui ont démarré, hein, puisque les travaux préparatoires et les travaux de déviation de réseau ont débuté à partir du mois de juillet et vont se poursuivre également sur 2026 et 2027. Et donc aujourd'hui, le projet est lancé.
Alors c'est une nouvelle importante, c'est une confirmation, bien sûr. Donc effectivement, vous me disiez, les choses avancent. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce chantier concrètement ?
Alors, sur le chantier, alors tout dépend ce qu'on entend par chantier. Aujourd'hui, sur le terrain, les entreprises qui travaillent, donc qui sont les entreprises des concessionnaires de réseau, on peut dire qu'il y a une centaine de personnes à peu près qui œuvrent sur les différentes zones qui sont en travaux, entre les personnes qui sont sur place et également les personnes qui sont dans les bureaux. Voilà, une centaine de personnes côté entreprise de travaux. Et ensuite, je dirais, côté prestataires divers, il y a beaucoup de personnes, hein, puisque effectivement, il y a les équipes du syndicat, il y a des équipes du mandataire. Donc nous, côté mandataire, on est une vingtaine de personnes à temps plein à travailler sur ce projet. Côté syndicat, c'est certainement une dizaine de personnes qui travaillent dessus, je pense. Et puis on a tous nos prestataires qui travaillent pour nous. Donc nos bureaux d'études, nos maîtres d'œuvre, nos géotechniciens, le constructeur de rames de matériel roulant, j'en passe, puisqu'on a aujourd'hui, je pense, plus d'une cinquantaine de marchés divers qu'on gère, qui font travailler du monde sur ce projet.
Soazic Le Guen, donc vous représentez le syndicat des mobilités de Touraine, mais pourquoi on dit fil bleu et vous, c'est syndicat des mobilités de Touraine, expliquez-nous la différence ou la complémentarité.
Oui, fil bleu, c'est la marque commerciale du réseau de transport en commun. Donc du bus et du tram, mais nous effectivement notre compétence, notre autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire, donc c'est plus largement toutes les mobilités. Ce qu'on aspire, c'est diminuer la part de la voiture solo. Hein. Donc on a aussi un service de vélo, le service de vélo de location longue durée qui s'appelle VéloCity, là les vélos jaunes et noirs qu'on peut voir partout sur la métropole. Et puis on a aussi mis en place un service de covoiturage avec BlaBlaCar Daily et un service d'autopartage avec les cities qui sont sur divers endroits de la métropole. Donc nous en fait on essaye vraiment de promouvoir les alternatives à la voiture solo, hein, l'autosolisme comme on pourrait l'appeler, afin de plus mieux partager les mobilités.
Ah, vous pouvez redire ça, motosolisme.
Autosolisme. Oui, c'est pas très joli.
c'est un terme nouveau qu'il était intéressant d'entendre quand on n'est pas un spécialiste des transports. Mais alors justement, ce nouveau. Cette nouvelle ligne de tram, elle va s'intégrer comment dans cette offre globale que vous évoquez là ?
Donc, sous le terme du réseau fil bleu, effectivement, derrière, on a un contrat, une délégation de service public qu'organise en fait Keolis, hein, actuellement jusqu'en 2031. Et effectivement, jusqu'en 2031, on sait comment va être développée l'offre et comment va être suivie en fait cette offre de transport en commun bus et tram sur le territoire avec l'intégration de la future ligne de tram. Donc on aura deux lignes de tram et on aura aussi une nouvelle BHNS qui sera ensuite complétée par deux autres BHNS. Donc on a vraiment sur cette...
On va faire un gros effort, on va essayer de ne pas jargonner, parce que là, moi, déjà, j'ai décroché, c'est quoi une BHNS ?
Je le savais. Donc effectivement, on aura deux lignes de tram plus des lignes de bus à haut niveau de service. Hein, c'est des lignes très fortes de réseau, comme on a la Tempo, c'est la ligne 2 actuelle, hein, qui est très très efficace, qui circule tous les 6 minutes qui a une grosse fréquentation. Et donc demain, à l'ouverture de la ligne 2 de tram, nous aurons aussi une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service qui viendra être complétée par trois autres d'ici 2031. Donc on a vraiment pensé une offre de transport en commun
globale sur le territoire. Ce n'est pas simplement une ligne de tram qui vient s'ajouter.
Mais l'articulation, par exemple, moi je parle en non spécialiste, on entend hein, ce que vous dites, mais on dit souvent, en tout cas ce sont des choses que j'ai entendues, oui, mais par exemple, tram, la ligne 2, quand on va arriver à Liberté ou à Verdun, je ne sais plus, de toute façon, il faudra descendre du tram pour monter dans l'autre, pour aller à la gare, enfin, ça fait partie des choses qu'on entend. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, effectivement, sur certaines origines et destinations, pour aller en gare, à partir de la ligne 2, il faudra prendre la ligne A actuelle. Hein, c'est-à-dire, c'est souvent à Verdun ou alors à l'arrêt Charcot actuel, hein, qui ne bougera pas, qu'on pourra faire cette correspondance. Sauf que beaucoup de gens ne viendront pas forcément de cette ligne A de tram et pourront circuler soit en bus, soit à pied, soit à vélo, soit directement depuis la ligne A pour aller en gare.
Donc dans le maillage, en fait, moi j'ai lu un chiffre, on dit qu'il y aurait 44 millions de voyageurs actuellement, qu'on passerait à 53, c'est ça ?
Effectivement. L'année dernière, en 2024, on est arrivé à 44 millions de voyages sur l'année, donc un record. Cette année, on va être un petit peu plus que ça. Et ensuite, la vision, c'est plutôt entre 53 millions et 55 millions sur la modélisation. Mais souvent, les modélisations sont bien en deçà de ce qui arrive, de ce qui peut arriver ensuite en fait en réel, hein, comme la première ligne était plutôt sur 37 000 voyages jour. Aujourd'hui, on est à plus de 70 000 voyages jour. Donc vous voyez qu'en fait on est toujours un peu pessimiste sur ces modèles, là.
Monsieur Pichon, là, je me tourne vers vous. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a intrigué, c'est votre titre. Vous êtes vice-président en charge, dites-nous.
De la transition écologique et sociétale. Alors justement,
c'est quoi dans une université la transition écologique ?
Alors, je ne l'ai pas fait lors de la présentation, effectivement, un petit peu sur mes missions. Mes missions, elles vont en fait consister à mettre en place des actions visant à réduire notre impact carbone de toutes les activités de l'université. Elles sont nombreuses. Hein. Ça concerne nos activités d'enseignement, de recherche, le numérique responsable, la performance énergétique de nos bâtiments, on en a beaucoup. Les mobilités, on va en reparler effectivement. La biodiversité de nos campus, voilà, c'est tout ça. Et effectivement, on a mis en place en fait un plan stratégique sur 4 ans qui s'appelle ASTRE, qui s'appelle Agenda stratégique de la transformation écologique et sociale, qui permet effectivement de cadrer différents axes, dont un qui concerne les mobilités. Alors pourquoi les mobilités ? Bah parce que on a réalisé un bilan carbone en 2025 qui montre que c'est le deuxième poste impactant, les mobilités. Ça concerne 33%, c'est en fait 33% de notre bilan carbone qui est lié aux mobilités. Parce que d'abord, on est une université avec un campus, je dirais, éclaté. On est sur 9 sites différents.
9 sites.
Ouais, minima, parce qu'après, on ne compte pas les petits sites hein, dispersés. Mais globalement, 9 grands sites avec 30 000 étudiants, 2500 personnels. Et évidemment, on peut comprendre que les mobilités sont pour venir sur le lieu d'études, sur le lieu de travail, aussi les mobilités intersites. On a quelquefois besoin aussi de se déplacer entre les sites. Du coup, effectivement, c'est un point très important. Et on a d'ailleurs fait un plan aussi des mobilités qui s'appelle Plume, Donc plan universel de mobilité. Hein, oui,
dans
voilà,
tous
oui.
Vos organismes, voilà. On adore bon, les sigles. Hein.
C'est léger, hein, plume, voilà.
Oui, pour
et donc dans le cadre, on a aussi répertorié des actions, des axes et des missions pour et notamment le report modal, c'est-à-dire comment on peut pour le personnel principalement qui va être un gros utilisateur de la voiture, comment passer vers des modes moins impactants, le vélo, les transports en commun. Les étudiants sont déjà des gros utilisateurs de transports en commun, mais comment aussi améliorer l'offre hein, pour ce public.
Monsieur Roussy, petite question avant la pause. Vous vous êtes présenté rapidement. Il y a... Le panorama économique de la métropole de Tours, c'est quoi ? C'est beaucoup de tertiaires, beaucoup de services, beaucoup d'industries, d'agricoles, c'est quoi ?
Énormément de tertiaires, hein, oui. Comme toutes les métropoles de France. Le département, si je fais un tableau du département, on est le département où il y a le plus de services dans la région, en pourcentage, hein, j'entends, en pourcentage du PIB produit par les entreprises. Et le tertiaire sur la métropole est excessivement important, donc... Il y a énormément de personnes qui travaillent dans les bureaux. Il y a du télétravail comme partout. Mais il y a aussi beaucoup de retours en présentiel maintenant, puisque depuis quelques temps, on se rend compte que les grandes entreprises et toutes celles qui travaillent dans le service et dans le tertiaire ont pris pour habitude de dire aux salariés de revenir un peu plus au bureau. Donc ça se voit dans le domaine des banques, ça se voit dans le domaine des assurances. Alors il y a encore du télétravail, mais il y a quand même pas mal de gens qui prennent régulièrement les transports et notamment la voiture, puisqu'on est dans une métropole de province. La plupart du temps, les habitants, les travailleurs habitent en dehors de la métropole. Hein, c'est pour des raisons foncières. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même un peu le sujet. Le prix du loyer ou de l'habitat est plutôt cher sur la métropole par rapport à 20 ou 30 km. Donc on a des gens qui font beaucoup de trajets.
Quand on se pointe à la gare de Tours à 7h30 le matin en semaine, on les voit, les gens qui sortent des trains là. Hein.
Oui, alors il y en a qui sortent et il y en a qui rentrent. C'est-à-dire que là, vous avez aussi tous ceux qui travaillent à Paris et qui habitent à Tours.
Les navetteurs, c'est comme ça qu'on
oui,
dit.
C'est ça. Donc, en fait, on se rend compte que le transport en commun, pour ça, a une grande utilité, c'est que c'est moins cher que la voiture. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Quand on a une voiture, ça coûte extrêmement cher à l'année. Et on évite de déplacer un moyen de transport pour une seule personne, puisqu'on est tous mutualisés dans les transports en commun. Hein. C'est ça l'intérêt. Je suis venu, moi, ici, personnellement, à ce rendez-vous en tram. Je prends régulièrement le bus pour aller... J'habite en centre-ville. Je prends régulièrement le bus pour aller à la chambre de commerce et d'industrie qui se situe dans le quartier des Fontaines, au sud de Tours. Donc je suis un utilisateur régulier des transports en commun. Ça permet de voir un peu qui se transporte dans les transports en commun et on voit un peu, toutes les couches de la population. On se rend compte que sans transport en commun, il y a certaines personnes qui auraient une mobilité très réduite parce qu'elles n'ont pas forcément de véhicule.
On marque une petite pause en musique et puis on se retrouve dans quelques minutes.
Radio Campus Tours, 99.5 FM.
We'll be right back.
Retour sur le plateau de Radio Campus 99.5. On vient chez vous. Nous sommes en ce moment avec le syndicat des mobilités de Touraine. Nous sommes avec Transamo, la CET, avec l'université de Tours et la chambre de commerce et d'industrie. Soazic Le Guen, vous allez sûrement pouvoir me donner ce chiffre. Combien de voyageurs sont transportés alors, on a dit 44 millions, mais est-ce qu'on a une typologie plus fine par mode de transport? Est-ce qu'on a un petit peu... Bon, la question, c'est pas de me donner les chiffres, c'est pas un examen à l'oral, quel est, de votre connaissance, le moyen de transport qui, aujourd'hui, est le plus utilisé?
Donc, sur le périmètre du syndicat, qui est la métropole, avec trois autres communes, mais pour faire simple, sur la métropole, effectivement, c'est la voiture qui est la plus utilisée actuellement. On n'arrive pas à faire baisser cette part-là, malgré le fait qu'on a réussi à développer le transport en commun et à faire évoluer ce pourcentage. Donc on est à plus de 50%, on est à 52% de part modale, donc d'utilisateur part modale par la voiture, d'utilisateur de la voiture. Ensuite vient la
marche. Alors ça, c'est un terme qu'on entend souvent, part modale, mais je ne suis pas sûr que tout le monde en comprenne la signification.
En fait, c'est la part d'un mode de transport quotidien.
Okay.
Donc là... Tout en haut, effectivement, il y a la voiture à hauteur de 52%. Après arrive la marche à pied, qui a presque un tiers, on est à 29%. Ensuite vient le transport en commun à hauteur de 11%. Et puis vélo et autres modes autour de 8%.
Transport en commun, 11%.
Oui, ce qui est une part qui est un peu au-dessus de la part nationale.
C'est la question que j'allais vous poser. On est au-dessus de la moyenne nationale.
Oui.
C'est pas beaucoup quand même.
C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une belle part. On est quand même saturé ou presque sur certains horaires et sur certaines lignes. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a vraiment cette ambition de futur réseau avec cette seconde ligne de tram et des bus à haut niveau de service.
Il est peut-être temps de vous demander, j'aurais pu le faire dès le début, Valérie Dubreuil, rappelez-nous le tracé. On ne va pas égrainer toutes les stations, évidemment, mais on le dit un peu partout, mais rafraîchissez-nous la mémoire quand même.
Alors, on va essayer d'être... rapide parce que ça pourrait prendre du temps. Alors le tracé, donc on a un premier terminus donc à l'ouest, au sud-ouest de Tours, donc sur le territoire de la Riche, à proximité de la Loire, à proximité du boulevard périphérique et de la route de Saint-Genoux. Donc pour vous situer, on n'est pas loin du prieuré Saint-Côme et on est juste de l'autre côté des infrastructures routières que sont le périphérique et la voie ferrée. Donc le projet donc démarre de là, ensuite va emprunter la rue de la Mairie, qui est l'axe qui permet de rejoindre depuis Saint-Genoux la mairie de la Riche. Arrivé à mairie de la Riche, la ligne 2 va descendre vers le sud pour pouvoir rejoindre le futur écoquartier Plessis Botanique, qui est actuellement en cours de réalisation, et déboucher au bout de la rue d'Entraigues à Tours, donc au sud du jardin botanique, donc avec effectivement un tracé qui va se situer le long du mur du jardin botanique qui va être conservé. Ensuite, la ligne 2 emprunte le boulevard Tonnelly en direction du sud, pour réobliquer tout de suite en direction de la rue Bauger et de la rue du Capitaine Pougnon, qui sont des deux rues qui desservent le quartier Maryse-Bastier, pour s'insérer dans le quartier également en construction des casernes Beaumont-Chauveau, et arriver au bout du boulevard Jean-Royer, là où aujourd'hui on a une impasse, donc le mur va être cassé de façon à pouvoir ouvrir et faire passer cette ligne 2 de tramway qui empruntera le boulevard Jean-Royer jusqu'à la place de la Liberté. Place de la Liberté, les infrastructures ferroviaires du tramway vont se raccorder à celles qui existent aujourd'hui de la ligne A. Et on aura un tronc commun entre...
C'était ma remarque là sur le
voilà,
fait qu'il y avait...
c'est ça.
Je sais plus comment, il y a un terme technique quand les gens doivent descendre et remonter, je ne sais plus. rupture de charge.
Rupture de charge, voilà, tout à fait, c'est ça, oui, rupture de charge. Donc effectivement, la ligne 2 se raccorde à la ligne A. Ensuite, on a des infrastructures communes entre la ligne 2 et la ligne A, ce qu'on appelle dans notre jargon un tronc commun entre les deux lignes. Donc ça va être entre la place de la Liberté et le carrefour de Verdun. Donc avec, comme le disait Soisic tout à l'heure, la station Charcot, qui va être la station commune aux deux lignes et qui permettra de changer de tramway de quai à quai, hein, donc sans changer de quai, voilà, et d'endroit. Et puis ensuite, arrivé carrefour de Verdun, la ligne 2 va laisser la ligne A sur son chemin actuel, donc en direction du quartier des Deux-Lions, et la ligne 2 va s'orienter toujours vers le sud, en direction de la piscine du lac, pour ensuite tourner à gauche, on va dire ça comme ça, en direction du quartier des Fontaines. Donc à cet endroit-là, on a le parking relais du lac, la ligne 2 passera juste au nord du parking relais du lac, et empruntera l'avenue Stendhal jusqu'au carrefour avec la rue Mozart. Ce carrefour-là, c'est le carrefour devant le centre commercial des Fontaines. Ligne 2 qui passe rue Mozart, qui franchit le Petit Cher va faire quelques zigzags pour rejoindre la rue de Saussure. Rue de Saussure qui est toujours dans le quartier des Fontaines, qui est à proximité notamment de la mairie annexe, du CCAS, il y a également des gymnases et bien entendu les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie.
Êtes, monsieur le Président, voilà. Vous êtes servi. Là.
Voilà.
C'est parfait. On aura même une station juste à notre entrée de chambre.
Exactement. Voilà. Et ensuite, cette ligne 2, après avoir donc desservi avec une station le quartier Rive-Sud qui est en cours d'aménagement, va aller en direction de la montée de l'Alouette, on va l'appeler comme ça, puisqu'on monte le coteau pour rejoindre Jouer-les-Tours et Chambrer-les-Tours, pour pouvoir ensuite longer le parc de la faculté de Grammont, notamment, avec plusieurs stations qui vont être réalisées sur l'avenue de Bordeaux. Donc on en aura notamment une au niveau de la rue de la Bergenerie, une autre au niveau du carrefour avec le boulevard de Chinon, là où il y avait avant le grand centre commercial, qui va desservir directement la faculté. Une troisième station qui va être un peu plus au sud, à l'emplacement actuel de la station Tempo, sur le territoire de Chambrer-les-Tours. Et arrivé au bout de l'avenue de Bordeaux, la ligne 2 va tourner à gauche, va franchir l'autoroute pour aller en direction donc, de l'hôpital, hein, du nouvel hôpital Trousseau, continuera son chemin sur Chambrer-les-Tours pour desservir notamment la zone d'activité Jean Perrin. On a une station qui sera relativement proche de l'entrée de cette zone d'activité, le lycée agricole qui est situé sur le début de la route de Loche, et un terminus, le deuxième terminus, sur le secteur qu'on appelle la Papoterie, donc à proximité du quartier de la Papoterie, où là on aura un deuxième terminus avec un deuxième parking relais, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à chaque extrémité on a deux parking relais qui sont aménagés, qui vont proposer donc à La Riche 300 places, à Chambrer-les-Tours on aura 400 places, à proximité du boulevard périphérique pour justement faciliter et on va dire engager le report modal de la voiture vers les transports en commun.
Alors là, moi, je dis chapeau parce qu'on n'est pas filmé et vous connaissez votre tracé par cœur. Vous avez des notes que vous n'avez quasiment pas regardées. Donc là, on a vraiment autour de la table aujourd'hui des gens investis. Ça va faire combien de nouvelles stations là?
On a 22 stations, dont une existante, donc 21 nouvelles.
Mais que faisaient les gens avant que ça, on fasse tout ça? Comment ils se déplaçaient?
Prenaient la voiture et le bus, j'imagine.
Oui, aujourd'hui, donc, les gens prennent beaucoup... Enfin, les gens... Il y a beaucoup de personnes qui vont vers le sud, hein, donc notamment vers l'université, le site de Grandmont et le CHRU, hein, le plus gros employeur du département.
Et de la région.
Merci. Ils vont aussi, notamment avec notre bus, au niveau de service Tempo, hein, la ligne 2 actuelle qui est saturée. Et effectivement, sur le sud de la Tempo actuelle, viendra le tram ligne 2, bien attendu sur cette zone-là.
Philippe Roussy, vous attendez évidemment un impact économique, mais vous pouvez être précis là-dessus, le nombre d'entreprises, de salariés impactés par cette nouvelle ligne?
Non, je n'ai pas d'études encore, mais les deux, trois messages que je peux faire passer, la première, c'est on a eu une grande attente, donc effectivement, il y a un besoin d'avancer sur les sujets, donc là, c'est parti. Pour les entreprises comme pour les salariés, ça va être une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est un sujet de discussion dans le microcosme tourangeau depuis des années, ça va se faire, ça va pas se faire, enfin, bref. Donc là, on avance, c'est déjà le premier point.
Le deuxième, c'est que ce qui m'importe par rapport à ce qui a été dit sur la part modale, notamment, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une économie en province où le déplacement en voiture, c'est important, notamment pour ceux qui sont, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui sont à l'extérieur de la métropole. Et il est important d'avoir des vrais parcs relais, enfin, avoir une capacité en parcs relais et de bien communiquer dessus pour que ceux qui viennent de Loche ou autres s'arrêtent sur le parc relais et puis puissent prendre le tram. Le tram, c'est quand même super pratique quand on est en ville. Je vous donne un exemple. Quand je vais de chez moi jusqu'à la chambre de commerce et industrie, donc j'habite quasiment à côté de la plage Jean Jaurès, et que je vais jusqu'au quartier des Fontaines, en bus, je mets entre 10 et 15 minutes au maximum. En voiture, à certaines heures, c'est plus d'une demi-heure. Hein, quand on passe par l'avenue Grammont, ce qui fait que c'est impossible, quoi. On passe d'un feu à l'autre et c'est pas possible. Donc ces sujets d'organisation de temps de travail, de mobilité des salariés, c'est extrêmement important, surtout qu'on en a beaucoup en centre-ville. Donc, et là, pour le coup, on va desservir et deux hôpitaux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y a énormément de salariés. On a dit que l'hôpital de Tours, c'est le premier employeur de la région quand même, hein. Il y a 10 000 salariés à l'hôpital, au CHU de Tours, que ce soit sur les différents sites. Ce qui est important d'entendre aussi sur le sujet économique, c'est que ben, les entreprises, elles payent aussi une cotisation qui est prélevée sur la masse salariale, hein, c'est 2%, versement transport, c'est sur 100% de la masse salariale. Donc c'est un peu normal quelque part.
Et ça finance cette ligne de train.
Il y a une partie qui doit financer, oui, j'imagine. Alors ça suffit pas, hein, j'imagine, mais au moins, au moins on a le sentiment que les choses avancent, l'infrastructure avance. Donc c'est important d'avoir des transports en commun. On est quand même dans la métropole de notre taille, on est quand même la seule à avoir qu'une ligne de tram aujourd'hui, je pense. Hein. Donc il était nécessaire d'en avoir une deuxième, pas pour le plaisir d'en avoir une deuxième, mais au moins on va desservir d'autres quartiers. Et puis je note qu'on passe entre pas loin de deux hôpitaux, on passe dans le centre-ville ou pas très loin, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et on va desservir à proximité la fameuse zone de Chambry-Sud, hein, donc sur la route de Loche. Et ça c'est une nouveauté parce que sauf erreur de ma part, il n'y avait pas beaucoup de zones industrielles qui étaient desservies sur la première ligne. Voilà, donc ça c'est important.
Est-ce que la métropole de Tours a les moyens de ces ambitions-là?
Alors, on peut toujours dire qu'on les a pas. Alors moi, je fais partie des gens qui disent... Alors je vais parler cash, hein, en tant que président de Chambre de commerce et industrie.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Moi, je ne ferai jamais le reproche à une collectivité de faire des dépenses d'investissement. Voilà. Hein, faut être clair. Les dépenses de fonctionnement, c'est un autre sujet, mais les dépenses d'investissement, c'est important. C'est avec ça qu'on prépare l'avenir, c'est avec ça qu'on crée des infrastructures. Si la Touraine est attractive, parce qu'on est attractif, c'est aussi parce qu'on a le TGV. Hein, voilà. Alors on pourrait se dire, tiens, le TGV, ça coûte cher, etc. Sauf que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des Tourangeaux qui travaillaient, enfin des Parisiens qui se sont décentralisés à Tours pour aller continuer à travailler à Paris, mais vivre à Tours. C'est vrai aussi dans l'autre sens. Il y a des Tourangeaux, il y a des Parisiens qui veulent travailler à Tours et qui n'ont pas envie de quitter Paris. Donc on a besoin des infrastructures. Plus on a de mobilité dans une économie, plus vous avez de flux, plus mieux ça marche. Là sur la métropole, on va avoir le tram. Tout à l'heure, on parlait du CERM avec d'autres personnes. Le service express régional métropolitain.
Alors la SNCF n'est pas présente. Mais...
Non, mais c'est pas la SNCF. Ouais. Hein, c'est un projet collectif territorial dans lequel on a tout de suite pensé au train, mais il n'y a pas que le train. Il peut y avoir des cars, il y a l'intermodalité avec le tram qui va jouer beaucoup. Et l'idée, c'est de rapprocher des villes comme Loche, mais aussi des villes comme Saumur, comme Vendôme, de la métropole de Tours.
Soazic Le Guen, vous souhaitiez intervenir?
C'était vis-à-vis du financement de cette ligne 2 de tram. Effectivement, hein, le budget du syndicat, c'est beaucoup le versement mobilité. Hein, donc sur la masse salariale dont vient de parler M. Roussy. Et puis c'est aussi une belle part des recettes billettiques qui remontent. Et puis après, effectivement, pour cette ligne 2, bah, ce grand projet d'aménagement, hein, de façade à façade, la plupart du temps, on a un support financier non négligeable de la métropole, hein, de Tours Métropole Val-de-Loire, sur ce projet. Après, on est allé chercher des subventions à droite à gauche, hein, comme sur tous ces projets, mais effectivement, voilà nos financements.
Madame Dubreuil, Valérie Dubreuil, sur le tracé, ça grogne un peu quand même, non? Expliquez-nous un peu ce que vous ressentez quand on abat des arbres, quand on a des riverains qui font des pétitions. Bon, Vous vivez ça comment, concrètement, et qu'est-ce que vous répondez à ces gens ?
En fait, c'est normal que les gens soient contents et voire pas contents pour certains à partir du moment où on va venir modifier leur quotidien. Donc, il y a besoin d'accompagner la population sur des projets de ce type-là. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout essayer de se projeter. C'est-à-dire que l'arrivée d'une ligne de tram dans un territoire, comme on l'a dit, hein, c'est un projet de territoire, c'est un projet métropolitain, mais qui va aussi avoir un impact direct sur le quotidien des habitants. Un impact direct sur le quotidien des habitants parce que ça va permettre de renforcer l'offre de transport, d'améliorer la qualité du réseau de transport urbain, mais aussi parce que ça va permettre de réaménager les 12 km hein, de tracé de la ligne 2 et les 5 km de tracé de la ligne de bus à haut niveau de service qui vont être réaménagés également. Donc forcément, il faut se projeter dans l'avenir pour essayer de se dire que finalement, c'est une période difficile à passer, cette période des travaux, parce que c'est toujours très complexe, on perturbe de manière assez forte, hein, le quotidien des habitants. Mais demain, on va aussi apporter un environnement urbain de qualité, un environnement urbain qui va être aussi accessible, qui va être complètement accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans des petites rues où on a des difficultés à circuler, etc. On a également un projet qui se veut être le plus possible dans l'objectif de réduction des îlots de chaleur. Ça, c'est un élément important. Il faut maintenir des voiries, il faut maintenir des trottoirs en béton parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça qu'on peut circuler. Mais en revanche, il faut aussi trouver le moyen de développer des espaces verts, de planter des arbres. Alors que vous le disiez, hein, effectivement, la première étape des travaux, ça a été la coupe des arbres qui sont nécessaires à la réalisation du projet.
Il y a quand même un élu qui est monté dans un arbre.
Oui, bon, après, c'est un habitant élu, ouais. En l'occurrence, qui est monté dans un arbre. C'est son choix. Il s'est exprimé. Moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Effectivement, il y a plus de 600 arbres, 800 arbres qu'il faut couper dans le cadre du projet. Il y en a plus de 2000 qui vont être replantés. Effectivement, le temps que ces arbres soient aussi grands apportent le même bénéfice que ceux qu'on a coupés, il va s'écouler quelques années. Ceci étant dit, on va faire en sorte de bien les planter, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'arbres aujourd'hui en ville qui souffrent parce qu'il n'y a pas de fausses arbres qui sont suffisamment dimensionnées, parce qu'ils souffrent de la pollution, parce que ce sont des essences qui ne sont pas forcément adaptées au réchauffement climatique. Donc on essaie, nous, de prendre ça en considération dans nos aménagements, comme c'est le cas d'ailleurs sur tous les aménagements que font les villes et la métropole aujourd'hui. Les gens mécontents par le tracé, il y en aura toujours. Ça, malheureusement, on ne peut pas l'empêcher. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut.
C'est sur cette forte parole que nous allons faire une deuxième pause. On vous sent très investi sur le sujet, c'est bien. Un petit peu de musique et on reprend dans quelques minutes.
Radio Campus Tour, 99.5 FM. Thank you.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Retour sur le plateau de Radio Campus 99.5. On vient chez vous, donc nous sommes accueillis par Transamo, le syndicat des mobilités de Touraine, et nos invités représentant donc ces deux organismes plus la Chambre de commerce et d'industrie et l'université de Tours évoquent le fameux sujet du tramway qui, malgré son tracé, n'est pas du tout un serpent de mer. Olivier Pichon, vous avez dit 30 000 étudiants, je crois, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Alors, là, par définition, là, on a un public qui est quand même très concerné. Qu'est-ce que ça va changer pour eux au quotidien ?
Déjà, parce que dans des enquêtes de mobilité qu'on a faites donc en 2023, en 2025, auprès de l'ensemble du personnel des étudiants, on montre que les étudiants sont des gros consommateurs des transports en commun. Hein. Ils utilisent plus de 70% des transports en commun, effectivement. Quand on entend aussi le tracé de la ligne 2, ça va relier quand même des sites importants. Alors, effectivement, on a entendu des sites universitaires comme le Grandmont, mais aussi les deux CHU. Et les CHU, il y a effectivement la faculté de médecine, la faculté d'odontologie, mais il y a aussi, effectivement, pas mal d'équipes de recherche qui sont concernées, qui travaillent aussi sur les sites des CHU, mais qui souvent enseignent aussi à Grandmont, la Fac des Sciences, ou inverse, etc. Et donc, ils vont avoir des mobilités intra-sites très, très facilitées par ce mode de transport. Ça concerne effectivement un public important. Et dans l'enquête de mobilité, justement, quand on a demandé aux étudiants, notamment, qu'est-ce qui freinait, ou même au personnel, qu'est-ce qui freinait leur passage à un autre mode de transport. Le premier élément qui vient pour ne pas prendre les transports en commun, c'est la durée du trajet, qui pour certains était trop longue. Et je pense qu'avec une ligne de tram, les trajets entre notamment par exemple les deux CHU vont être bien améliorés par rapport à des modes de bus où il faut prendre une autre ligne, etc. Donc ça peut être un élément très important pour ce report modal, justement, qu'on essaie de favoriser auprès de nos étudiants et de notre personnel aussi.
Les étudiants que vous avez sur vos 9 sites, enfin, vous n'avez peut-être pas des étudiants sur les 9, mais
oui, tout à fait.
Ils ne viennent pas tous de Tours, j'imagine.
Alors, la plus grande partie... Alors, effectivement, quand on étudie le mode de transport de nos étudiants, on s'intéresse à le transport des étudiants de leur lieu, de leur domicile de la semaine, leur chambre étudiant, leur logement, effectivement, pour venir sur leur site d'études. Là, dans ce cas-là, effectivement, la plupart de nos étudiants sont sur la ville de Tours, pratiquement, ou sur la métropole. Le personnel est déjà certains personnels habitent à 30, 40, voire plus de kilomètres. Ce n'est pas la même problématique. Après, effectivement, il y a la problématique aussi du déplacement de nos étudiants, de leur domicile, du domicile des parents, pour venir sur la ville de Tours. Là, effectivement, on peut avoir des déplacements qui sont beaucoup plus loin, puisque les trois quarts de nos étudiants qui sont de la région, on a quand même un pourcentage d'étudiants qui viennent aussi d'ailleurs. Donc, c'est une autre problématique aussi. Pour l'instant, on se concentre effectivement sur le mode de déplacement de nos étudiants, de leur domicile étudiant jusqu'à leur lieu d'études.
Est-ce que l'université, comme les entreprises, elle paie une taxe transport, ou est-ce qu'elle prend en charge les déplacements?
Alors, on a un forfait mobilité, effectivement, mobilité durable qui est réglementaire. Mais en plus, l'université met en place ce qu'on appelle un ASIU, c'est-à-dire une aide sociale d'initiative universitaire.
Ça, c'était pas une plume, hein?
Oui, c'est pas une plume.
Un ASIU.
Non, okay. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à le prononcer. Hein, mais alors, j'aime pas trop les acronymes, c'est pour ça que je préfère dire l'aide sociale d'initiative universitaire. Il y en a plusieurs, et de celle qui correspond aux mobilités. Et ça correspond quand même, c'est une aide supplémentaire par rapport au forfait mobilité durable. Ça correspond à 1/6 du montant de l'abonnement, donc qui est sans justificatif de ressources. Ça veut dire qu'on aide effectivement le personnel à aller vers ce mode de transport en commun. Donc ça, c'est...
Là, vous parlez du personnel salarié.
Personnel salarié.
Moi, je parle des étudiants.
Alors, les étudiants, effectivement, il y a des forfaits, il y a une aide sur le... Parce que un des points aussi, je vous ai parlé des trajets trop longs, mais pour les étudiants, c'est aussi quand même encore le prix hein, de l'abonnement. On a un abonnement étudiant, je crois, à 230 € par an. Il peut y avoir des abonnements mensuels aussi, qui sont sur critères hein, sociaux, qui peuvent aller jusqu'à le minimum, je crois que c'est 9 € par mois, jusqu'à 23 € par mois.
On va laisser Madame voilà. nous préciser tout ça.
Et c'est effectivement un point important pour les étudiants, hein, avec leur...
Oui, effectivement, dans la grille tarifaire, hein, comme on l'appelle, on a cet abonnement à 230 € par an pour les étudiants. Et après, suivant le quotient familial de la famille, hein, dès que c'est familial, disons, l'étudiant a aussi le droit à des tarifs moindres pour si sa famille rentre dans ces critères-là. Donc, on a essayé d'avoir une grille tarifaire la plus équilibrée possible pour pouvoir répondre... de répondre aussi à cet enjeu de mobilité pour des gens un peu plus captifs que d'autres et puis avec beaucoup moins de ressources effectivement hein, comparé à un abonnement à 49 € pour les 26-60 ans il y a quand même une belle différence entre les deux. Il y a 2 ans de ça on a modifié la grille des tarifs mais on n'a pas touché à l'abonnement étudiant ni à l'abonnement senior parce que c'était une forte volonté politique de pouvoir faire en sorte que ces publics-là aient encore accès assez facilement au transport.
J'ai droit à une question bête par émission. Elle est pour vous, Soazic Le Guen. Pourquoi les transports en commun ne sont pas gratuits ?
Alors aujourd'hui, c'est une bonne question. Une question aussi un peu politique aujourd'hui. En tout cas, dans certaines réponses, nous, c'est quand même une forte ressource pour notre budget qui permet d'investir. Hein. Donc là, on parle de la ligne 2, mais on parle aussi des bus au biogaz hein, qu'on a acheté récemment et qu'on continue à acheter l'année prochaine. On doit poser aussi une partie de bus à l'électricité, rénover des dépôts, etc. Et tous ces investissements ont besoin d'être financés quelque part. Donc effectivement, on préfère, en tout cas pour l'instant, se dire que d'avoir une belle offre avec du matériel roulant qui permet d'aller vite et d'être régulier de manière à satisfaire les usagers.
Philippe Roussy, il y a quand même, je ne sais pas si c'est une spécialité tourangelle, mais je ne pense pas. On entend souvent les commerçants qui disent, oui d'ailleurs je crois qu'ils font circuler des pétitions, sauvons notre centre-ville, il me semble, qui se plaignent en disant, oui les voitures peuvent plus accéder, le commerce périclite, vous en pensez quoi de ça par rapport à notre discussion d'aujourd'hui ?
Bah, par rapport à la discussion d'aujourd'hui, c'est très simple, depuis le 23 juin je crois, ou 24, je ne sais plus, on a fait les rencontres du commerce à la ville de Tours. Avec les élus et les représentants des commerçants. On a débriefé ce qui s'était dit avec des ateliers. C'était une demi-journée où on a fait un tableau, hein, on a fait un état des lieux. On a fait intervenir et nous, on a payé un consultant pour expliquer un peu aux commerçants les enjeux du commerce à 5-10 ans, parce que c'est ça, en fait, le sujet. On est en pleine transition. On parlait de transition de développement environnemental, de transition digitale tout à l'heure, mais il y a une grosse transition dans le commerce. Le commerce est en train de changer d'époque. On change de mode de consommation. Il y a Internet, il y a tout un tas de choses. Donc, ils vivent un moment très particulier. Les commerçants, c'est assez difficile. Donc, à partir du moment où il y a des points d'accroche sur certains sujets, c'est vrai que ça cristallise un peu les opinions. Mais en fait, l'étude a montré que... Enfin, nous, on a fait une étude. On a interrogé... on a eu la réponse d'à peu près 400 et quelques commerçants et à peu près 5000 consommateurs. Et le sujet de la mobilité était un sujet, mais ce n'était pas le sujet. Quoi. Il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'il y a des sujets sur le commerce, mais ce n'est pas monofactoriel. Il y a un certain nombre de causes et d'explications. Donc on est en train de travailler dessus. et on pense qu'on va sortir quelque chose d'ici 2026. Voilà, avec les commerçants et avec les élus. Donc ça, c'est cette partie-là qu'on est en train de travailler. Alors il y a du ressenti, hein. Il y a aussi des habitants qui disent, et c'est pour ça que les parkings relais c'est important, notamment ceux qui ne sont pas en centre-ville comme moi par exemple. Quand vous habitez en centre-ville, vous avez tendance à prendre les transports en commun et à marcher à pied, voire à prendre le vélo quand vous êtes un peu plus loin. Quand vous habitez à Saint-Cyr, à Saint-Avertin ou à Fondette, vous allez prendre votre voiture. Le sujet, c'est qu'est-ce que je fais de ma voiture comme pour arriver en ville.
Ah ben maintenant, il y a une gare qui a rouvert à Fondette.
Oui, oui, bah c'est, on en a parlé ce matin là, justement, au Salon des maires, donc ça fait partie des sujets. Ouais. Donc tout ça, il faut qu'on change d'époque sur ces sujets-là. Je voulais juste revenir sur la partie travaux, parce que c'est lié aussi aux commerçants. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de communication en phase, en amont, sur les travaux. C'est très, très, très important, parce que là, il y a du ressenti aussi. Et là, je les comprends. Pour le coup, là, je les comprends très bien, parce que quand on vous dit 3 semaines avant que votre rue va être fermée, alors ça peut être ça pour le sujet du tram, mais c'est aussi pour les travaux de voirie, hein, de manière générale, que votre rue va fermer ou alors que vos clients, ils auront du mal à accéder à votre devanture, à un moment donné, les commerçants, ils comprennent plus, quoi. C'est-à-dire que... Et ça, c'est des vrais enjeux. On a besoin de dire en amont, bah voilà, à ce moment-là, là, ce sera vraiment indisponible. Et donc, il y a deux façons de faire. Un, les prévenir très tôt pour qu'ils s'organisent. Un commerce, il peut fermer. Il peut mettre ses salariés en congé. Si on leur dit pas, bah, c'est trop tard. Du coup, c'est pleine charge, pas de chiffre d'affaires. Et là, c'est la catastrophe. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qui est important par rapport aux commerçants, c'est de bien comprendre qu'ils s'intègrent dans la ville. Donc, quelque part, il faut aussi qu'ils puissent le vendre, ce nouveau mode de transport, et qu'on ne décrit pas tout le temps ces modes de transport. Parce que quelque part, à force de dire que les gens viennent plus en ville, effectivement, les gens viennent plus en ville.
Hein, donc, c'est des prophéties autoréalisatrices.
C'est un peu ça. Hein, oui. Donc, il faut pondérer ces messages. Donc, ils comprennent ça. Donc, on est en train de travailler avec eux sur ce sujet-là. On est en train de faire de la pédagogie là-dessus. Hein.
Valérie Dubreuil, la com.
Oui, j'entends ce que dit Monsieur Roussy. C'est clair, il faut communiquer le plus tôt possible, le mieux possible. Donc, c'est ce qu'on va être tenté de faire. On va essayer de répondre au mieux à ces attentes-là, ce qui est déjà en cours. Alors, c'est vrai que les travaux qui ont démarré cet été ont fait l'objet, hein, de communication. Malheureusement, quand on organise des réunions d'information en amont, tout le monde ne peut pas se déplacer. Il est vrai. On a fait beaucoup de réunions d'information sur le démarrage des travaux avant le début de l'été. En parallèle, donc, on a mis en place toute une démarche de communication sur le terrain, donc pas nous tout seuls, hein, également avec les concessionnaires, puisqu'aujourd'hui ce sont des travaux qui sont pilotés par les concessionnaires, c'est pas des travaux qui sont sous maîtrise d'ouvrage du syndicat et qui sont sous notre maîtrise d'ouvrage déléguée à nous. Donc nous, on a une mission de coordination globale de cette communication, donc c'est ce qu'on fait au quotidien, donc on essaie au mieux d'anticiper les phases de travaux de façon à pouvoir anticiper et prévenir le plus tôt possible certains commerçants. C'est pas toujours aisé. On a effectivement des commerçants aujourd'hui sur certains secteurs de travaux qui subissent de plein fouet des fermetures de rue ou des mises en sens unique, qui voient moins de monde passer devant chez eux. Donc on a trouvé des solutions sur le terrain quand on a vu vraiment qu'on était dans des situations un peu difficiles, avec des modifications de circulation qu'on a travaillé avec les entreprises pour essayer de modifier les choses. Donc c'est ce qu'on a fait notamment à proximité du boulevard Tonnet, avec la mise en place également avec le syndicat des mobilités et Fil Bleu d'un arrêt de bus à proximité des commerces pour faciliter également l'accès au commerce. Mais c'est sûr que ce sont des moments qui ne sont pas évidents. Pour pouvoir accompagner tous ces travaux, donc on a également une équipe de proximité qui travaille pour nous, hein, dans notre équipe. On a recruté 2 agents de proximité pour accompagner les travaux de dévoiement des réseaux. On aura encore 3 autres agents de proximité qui seront recrutés d'ici un an pour accompagner la totalité des travaux, hein, y compris ceux de la ligne de tram qui vont démarrer à l'été prochain, pour être au plus proche des habitants et au plus proche des commerçants.
Qui est le plus dur à gérer, c'est les commerçants ou les habitants ?
Je dirais pas que c'est le plus dur, en fait, c'est normal. Enfin, en fait, c'est normal d'aller expliquer aux commerçants ce qui va se passer. Et les gens qui font ça, c'est des gens qui sont motivés par leur métier. Ce sont des médiateurs, hein. C'est des gens qui aiment la médiation, qui aiment trouver des solutions. Donc, je vais pas dire que les commerçants et les habitants sont plus difficiles. En fait, c'est un travail qu'il faut mener, il faut faire de la médiation, il faut donner de l'information, il faut répondre aux questions et trouver des solutions. ce qui n'est pas toujours simple.
Je crois que votre groupement Transamo 7, si je me trompe, c'est national, non ? C'est pas ça ? C'est la 7, c'est un opérateur national ?
Non. Alors, la 7, la Société d'équipement de la Touraine, c'est pas la SCET, c'est autre chose. Donc, effectivement, Transamo est une entreprise nationale, c'est une filiale du groupe Transdev. Transamo a notamment une particularité avec un service dédié à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et accompagne les maîtres d'ouvrage sur leurs projets de transport.
Ma question, en fait, c'était, qui était sous-tendue, mais peut-être que vous ne pourriez pas y répondre du coup, c'était par rapport à d'autres opérations de cette nature en France, est-ce que celle qui se mène actuellement à Tours, mais peut-être que Mme Le Guen peut aussi répondre, est plus simple, plus compliqué, pareil, enfin je ne sais pas. Ce type de grand projet.
Je peux juste répondre et puis après je laisserai Swazik compléter. Sur nous, en tout cas, les missions qu'on mène chez Transamo sur ce type de projet, en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en mandat, ce qui est le cas, maître d'ouvrage délégué, c'est un fonctionnement qui est relativement classique pour des collectivités, que de faire appel soit à un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, ou un mandataire. Ce projet-là n'est pas plus compliqué que d'autres projets. Il a ses propres spécificités, en fait. Je ne sais pas si tu...
Swazik Le Guen.
Oui. Le montage qui est fait ici sur le territoire est un montage qui est fait aussi sur d'autres territoires. Et la gestion globale est à peu près la même que sur chaque territoire. L'ayant vécu sur d'autres territoires, on a les mêmes questions, les mêmes ressentis.
Et après, quand c'est fait, les gens sont contents ?
Les travaux sont assez vite oubliés. Mais effectivement, il faut faire très attention à comment vivent les commerçants jusqu'à l'ouverture de ces lignes-là. Je pense notamment à la mise en place de commissions d'indemnisation à l'amiable. Il y a deux commissions. Il y en a une qui est portée par la métropole pour les travaux actuellement en cours de par les concessionnaires. Et il y a une commission d'indemnisation qui est mise en place.
Oui, ça va loin parce qu'il y a
syndicat.
Des riverains qui ont reçu effectivement des courriers disant qu'on pouvait les indemniser par rapport à un certain nombre de choses quand même. C'est un gros engagement quand même.
La commission d'indemnisation à l'amiable, c'est simplement pour les commerçants.
Oui.
Activités économiques, en fait.
Des activités économiques qui doivent montrer qu'ils ont perdu du chiffre d'affaires, notamment.
J'ai vu une lettre qui a été envoyée récemment pour des riverains, je crois que c'est du boulevard Tonnelet ou boulevard Royer, je ne sais plus, disant on peut indemniser pour des histoires de place de parking perdue, choses comme ça.
En tout cas, nous, on n'est pas au courant de ce type de courrier. Je ne sais pas qui a pu envoyer
ça. C'est un fake.
Peut-être.
Vous en profitez pour rétablir les choses. Ma dernière question répond qui veut, ou même tous ensemble. Il ne vous aura pas échappé qu'il y aura des élections municipales dans quelques mois. Quel impact, pour dire les choses clairement, je veux dire, s'il y avait un changement politique, notamment à la mairie de Tours, mais pas que. Il y a un grand silence. Non, mais concrètement, je veux dire qu'on entend quand même des gens, des candidats ou putatifs dire on remettra tout ça en cause, faut changer ça, arrêter ça, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe là ?
Alors, de notre côté, tout est enclenché, c'est-à-dire de longue date. On a signé déjà des gros marchés, notamment le marché de matériel roulant tram, à hauteur de... environ 80 millions d'euros donc le marché est signé, ils ont engagé des dépenses, le tram, c'est-à-dire le matériel roulant lui-même est en train d'être conçu et sur l'Espagne et sur le sud de la France à Bagnères par exemple.
On reviendra pas en arrière concrètement.
Une remise en cause du projet serait très préjudiciable si jamais
là, on fait un peu de la politique fiction, mais il y avait une volonté politique suite à un changement de ça ne pourrait pas être un abandon, mais est-ce que ça pourrait être une inflexion sur quelque chose? Mais alors sur quoi alors?
En fait, le projet, il a été déclaré d'utilité publique par le préfet. Donc, on a défini un programme, un tracé. Le préfet a déclaré d'intérêt public ce projet. Donc à partir de là, si demain il devait y avoir des demandes de modification ou d'adaptation du projet, il y aurait forcément une analyse à faire de l'impact de ces demandes vis-à-vis du projet qui a été déclaré d'utilité publique, de façon à ce que ça ne remette pas en cause de façon substantielle le projet qui est déclaré d'utilité publique. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse qu'on peut vous faire.
C'est une bonne réponse. Moi, du moment que j'ai une réponse, je suis content. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être auquel on n'a pas pensé, dont on peut encore parler, Monsieur Pichon ?
Je voulais rajouter qu'effectivement, on se rend bien compte que pour nous, pour travailler sur la mobilité de nos personnels, de nos étudiants, on a besoin forcément de nos partenaires locaux, et que on fait justement partie on est membre du comité des partenaires du SMT, donc au cours duquel on peut justement faire remonter nous nos desiderata suite à nos enquêtes de mobilité, où on voit justement des problématiques. Alors ça concerne les transports en commun, les lignes de bus, la flexibilité des horaires, etc., mais c'est aussi les pistes cyclables, tout ça, effectivement, c'est on a un organe de discussion au sein de ce comité, où on peut faire remonter effectivement, et ça c'est important, parce que justement on a besoin aussi d'être en partenariat avec vous pour que vous puissiez écouter aussi nos souhaits. J'en parle de pistes cyclables qui peuvent, on a des fois des obstacles à cette continuité, tout ça on le fait remonter auprès du SMT.
Merci à nos invités. On vient chez vous, l'émission qui se déplace là où vous êtes est maintenant terminée. À bientôt. La vie continue sur 99.5. Eh ben, c'est Radio Campus. Ça tombe bien.
Vous écoutez Radio Campus Tours, 99.5 FM.